Tout à l'heure, pendant qu'on se préparait à la Sainte-Seine, il y a une pensée qui a traversé mon cœur et mon esprit, et j'aimerais juste vous la partager avant d'ouvrir les Écritures, mais ça va dans le sens. Lorsque un homme vit dans le péché, la seule solution pour lui de pouvoir trouver le salut, c'est de venir à la croix. N'est-ce pas ? Et à cette croix, avoir la révélation du Fils de Dieu, lui qui est mort sur la croix, lui qui a donné sa vie, et que par le sang qu'il a versé, a finalement payé notre dette. Amen. Mais du moment que l'homme a fait cette action, du moment où l'homme a finalement compris, saisi, accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, du moment que finalement Jésus est devenu son Maître et son Seigneur, finalement c'est plus vers la croix qu'il doit se tourner. C'est au ciel. Puisque le Seigneur il n'est plus sur la croix, il dit la parole de Dieu, il est ressuscité. Et nous avons besoin d'avoir une autre, finalement, révélation de la personne de Jésus-Christ, pas seulement celui qui a payé pour nous, mais celui qui règne. Amen. Et ce matin, j'aimerais partager une pensée avec vous sur le thème « Il est là ». Il est là. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, les versets 16 à 20, Matthieu 28, versets 16 à 20, il nous est dit « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. » Magnifique, hein ? Mais, quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et j'aimerais vous dire ce matin, il est là. Amen. Il est là. Malgré ce qui pourrait parfois nous amener les uns et les autres à avoir des doutes. Il dit le texte que les disciples, ils le virent, ils étaient là, et ils étaient en train de l'adorer, mais quelques-uns eurent des doutes. Dans la parole de Dieu, nous avons quelques exemples qui nous amènent finalement à faire une analyse si nous marchons par nos ressentis ou par la foi. Parce que parfois, on dit oui, Dieu est là, il est là, le Seigneur est là, mais on attend des ressentis. Où on se base sur des ressentis. Vous avez, et parfois les ressentis peuvent nous approcher comme nous éloigner du Seigneur. Si vous avez le temps, on prend ensemble ce matin ce partage avec différents textes qui vous pouvez à nouveau réécouter après dans l'enregistrement, mais je vais essayer d'aller rapidement parce que je ne voudrais pas trop m'arrêter sur seulement le texte, mais aussi sur le contexte. Genèse chapitre 3, verset 10. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis donc caché. » Adam, il est conscient que Dieu est là, mais ça suscite en lui un sentiment, celui de la peur. La parole de Dieu voudrait encore ce matin nous aider, à nous encourager à ne pas nous laisser gagner par les ressentis. Beaucoup, encore aujourd'hui, malheureusement, marchent et vivent par les ressentis. Les ressentis qui sont ceux de la peur parce qu'il y a la crainte du jugement de Dieu. Et il y en a d'autres que c'est à cause de leurs propres convictions. Si nous prenons le cas de Jonas, chapitre 4, versets 1 à 4. Jonas, chapitre 4, versets 1 à 4. « Cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Il pria l'Éternel et dit, « Ah Seigneur, ce n'est pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays, ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, long à la colère et riche en bienveillance et qui regrette le mal. Maintenant, l'Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Et l'Éternel lui répondit, « Fais-tu bien de te fâcher ?» Jonas y réagit parce qu'il croit que finalement, il y a une injustice. Pour lui, Jonas, il se met en colère face à ce qu'il croit être une injustice vis-à-vis du message de salut de Dieu pour Ninive. Pour lui, Ninive, il fallait la détruire. Il aurait vu le feu descendre du ciel, il aurait été là en train d'applaudir et de dire « c'est bien, c'était le temps, justice a été faite, maintenant, oui, je peux louer Dieu, je peux l'adorer. » Mais quand Dieu lui dit « va à Ninive et tu vas lui donner ce message », Jonas, il n'est pas content parce que Jonas, il se laisse finalement prendre enlacé par ses sentiments et par ses ressentis. Je voudrais aussi attirer votre attention sur un autre personnage, un homme aussi qui connaissait Dieu. Parce que, n'oubliez pas, Jonas était quand même un prophète. N'est-ce pas? On va en trouver un autre. C'est Élie. 1 Roi, chapitre 19, verset 13, 14. Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. » Et il cherche à prendre ma vie. Le sentiment de solitude d'Élie l'amène finalement à se croire seul, à être resté fidèle à Dieu, sans ressenti. Et finalement, il ne va pas là où Dieu lui demande, il part ailleurs. En lisant ces textes, je me disais, Seigneur, combien de fois nous-mêmes, nous attestons, nous chantons « Dieu est là ». Vous connaissez ce chant ? Dieu est là, Dieu est là. Oui. Te guérir et tu crois en sa parole. Dieu est là. Amen. Mais si vous regardez même ce chant, il est là pour te guérir, il est là pour te secourir, il est là pour te bénir. Toutes les choses que nous attendons et que parfois pourraient nous amener finalement, si on ne les voit pas dans les temps que nous désirons, on pourrait se dire, ben, est-ce qu'il est là? Finalement, quand nous regardons ce texte, que ce soit Adam, que ce soit Jonas, que ce soit Élie, les trois ont des sentiments complètement différents et finalement ils sont devenus prisonniers de leurs sentiments et de leurs ressentis. Pour l'un, c'était la peur, pour l'autre, le sentiment d'injustice, comme si Dieu pouvait faire des injustices. Pourtant, il avait l'habitude d'entendre Dieu. Et si Dieu lui donnait des paroles, des prophéties, elles étaient certainement justes. Je dirais même très, très juste. Mais vous voyez, des fois, il y a des choses dans notre cœur, dans notre âme qui nous amènent à examiner, voire même considérer mal la présence de Dieu à nos côtés. Est-ce que vous croyez que Dieu est là ce matin? Et il est là pourquoi? Alors, vous n'allez pas me rechanter le chant? Parce que certes, c'est une certitude, je le crois, je le confesse et je le chante aussi. Soyez rassurés. Amen. Mais il est là aussi parce qu'il désire finalement entendre aussi notre cœur s'exprimer. Si je crois que Dieu est là, comment je peux me présenter devant mon Dieu et rester en silence? Est-ce que je suis en train de bouder Dieu? Parce que dans le texte, il y en a un qui va bouder Dieu et il va se cacher. Il y a le deuxième, il va bouder Dieu et il va s'enfuir. Et à la fin, il finit dans le ventre du poisson. Le troisième qui va, entre guillemets, un peu bouder Dieu, il s'en va dans une grotte. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il s'isole. Si nous sommes en train de nous isoler de la présence de Dieu, frères et sœurs, je vous dirais, attention, sonnette d'alarme. D'ailleurs, regardez la réponse de Dieu à cette dernière parole de cet homme de Dieu qui était Élie. 1 Roi, chapitre 19, versets 15 à 18. L'Éternel lui dit, « Va. Reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nichi, comme roi d'Israël. Et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappe à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Quelle faute de vision! Et ce matin, on pourrait facilement, excusez-moi, tirer la pierre sur ces personnages. Mais faisons attention parce que bien des fois, nous aussi, nous nous sommes crus seuls. Je suis le seul à croire. Je suis le seul à espérer. Je suis le seul à avoir raison. Et quand Dieu ne fait pas les choses comme nous, on les veut, on boude. Non ? Un peu. Pas beaucoup, mais on boude. Alors je dirais attention, nos ressentis et nos changements d'humeur peuvent être un piège pour notre âme. Jésus s'approcha de ses disciples qui étaient là pour ce moment particulier où Jésus, finalement, il allait partir. Ils ont passé 40 jours avec quelqu'un que tout le monde croyait mort, enterré, fini, terminé. Et pourtant, Jésus était là. Amen. Merveilleux, ça. Même la mort n'a pas pu le retenir. Nous pouvons confesser que notre Seigneur est vivant. Il s'est présenté vivant. Il dira la parole de Dieu, pas seulement qu'il est rentré dans ce lieu où les disciples se trouvaient, il a pris son repas avec eux. Et il leur a enseigné encore tellement de choses que la terre ne pourrait pas contenir les livres. Waouh ! Qu'est-ce que j'aimerais avoir cette bibliothèque ! Mais je crois que le Seigneur voudrait encore écrire des pages dans notre vie. Mais il est question pour nous de saisir finalement que Jésus est là. Non pas seulement quand j'ai besoin de bénédiction, quand j'ai besoin d'être relevé, quand j'ai besoin de ceci ou de cela. Il est là tous les jours. Et puisqu'il est là, comment moi je me dois au Seigneur? Comment je dois marcher moi avec le Seigneur? Et le texte dira par la suite la réponse de Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. » Je lisais dans la parole de Dieu que finalement, il arrive à tout être humain de passer par un moment de doute. Qui n'a jamais douté, lève la main. Vous voyez, ce que je vous dis est vrai, hein, n'est-ce pas? Même le grand Moïse, lui, s'est trouvé à vivre un moment de doute à cause des échecs. On peut avoir vécu des choses qui nous ont amenés à l'échec dans notre vie. Certainement, avant de connaître Jésus, on a vécu des échecs. Je pourrais lever les deux mains et les deux pieds. Alors, si échec il y a eu après, ce n'est pas dépendant de Dieu, c'est ma faute. Mais si je regarde les Écritures, je me rends compte que finalement, parfois ce sentiment d'échec et de doute peut demeurer. Même quand je me trouve devant Dieu. Regardez Exode chapitre 3, verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ? Qui suis-je pour ? Seigneur, finalement, tu connais ma vie. J'avais fait des grandes études, mais t'as vu ? Je suis fini comme berger. Le pôle emploi, c'est tout ce qui m'a trouvé. Et c'est même pas mes brebis, c'est les brebis du beau-père. Tout ce que moi j'ai, c'est une tente, rue du désert, quatrième chemin, à gauche, après la dune. Voilà tout ce que j'ai. Mais Dieu parle à Moïse et lui dit, comment, qui es-tu ? Et regardez plus loin, chapitre 4, verset 1. Moïse répondit, ils ne me croiront pas, ils n'écouteront pas ma voix, mais ils diront l'Éternel ne t'est pas apparu. Frères et sœurs, devant la présence du Seigneur, nous pouvons parfois même chercher des arguments pour fuir finalement à sa présence. Parce que qu'est-ce que Dieu voulait de Moïse ? Certes, qu'il conduise le peuple, mais aussi il voulait de Moïse qu'il soit dépendant de Dieu jour après jour. La parole de Dieu nous dit que Moïse rencontrait Dieu face à face. Est-ce que nous croyons, nous, pouvoir rencontrer le Seigneur tous les jours ? Qui le croit? Et si nous sommes conscients de ça, nous sommes aussi conscients de la responsabilité qui nous incombe, de la manière de nous présenter devant le Seigneur. C'est pas évident tous les jours. Moïse, comme vous et moi, il marchait sur la terre, hein, il flottait pas sur l'air, il avait pas un nuage qui le transportait. Il était obligé lui aussi, excusez-moi, à sentir la poussière, à sentir la transpiration et parfois même à entendre les paroles des uns et des autres qui le blessaient, qui lui faisaient du mal. Même sa propre famille le jugeait, il le maltraitait, il le considérait comme celui qui s'était élevé tout seul. Il avait pris des responsabilités, il voulait commander sur les autres alors qu'il était le plus petit. Sauf que Dieu montrera que c'est lui que Dieu avait choisi. Au verset 10, toujours du chapitre 4, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Hein? » Après le fait de dire « Ils ne me croiront pas », c'est « Seigneur, tu sais que je ne sais pas trop parler. » Qui a ce problème? Vous savez ce que le Seigneur vous répond. Donc, il n'y a pas d'excuse pour qui que ce soit. Et après, verset 13, Moïse dit, « Ah Seigneur, on voit qui tu voudras envoyer. » Et là, excusez-moi, il se prend, comment on appelle ça, une aller-retour, recto verso. Et Dieu lui dit, « Stop, arrête. » Frères et sœurs, quand nous sommes dans la présence de Dieu, moi je crois que Dieu nous parle à tous. La question c'est qu'est-ce que nous répondons à ce que Dieu nous dit? Comment finalement nous prenons cette parole? Est-ce qu'on se dit « Ah, heureusement que le Seigneur a parlé pour le frère et la sœur. T'as entendu ce matin ?» Ou peut-être l'époux qui dit à son épouse « Ah, c'était pour toi ce matin. Oh, t'en as pris pour ton grade. » Et l'épouse qui dit dans sa tête, oh, heureusement qu'il était là, il a tout entendu. Hein? Mais moi, je crois qu'au lieu de se dire que c'est pour l'autre, moi, je dois me dire, c'est pour moi, Seigneur. C'est pour moi parce que tu es là. Parce que quoi que je puisse penser sans forcément le dire, le Seigneur connaît nos pensées. Vous l'avez vu dans la parole, il savait ce qu'il pensait. Jésus va et leur donne une parole. D'ailleurs, si vous regardez dans ce texte, Jésus ne vient pas pour essayer de les convaincre, il dit maintenant, allez. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est là que vous allez expérimenter que Dieu m'a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Veux-tu croire que Dieu est avec toi? Mais il faut y aller. Ce n'est pas en restant dans ta réserve, ce n'est pas en restant dans ta grotte, ce n'est pas en restant dans le ventre de ton poisson que finalement tu vas expérimenter quelque chose avec le Seigneur. Sors de tes réserves et fais confiance à Dieu. Il est là. Ne reste pas dans le doute, ne reste pas dans la crainte, ne reste pas dans tout ce qui a pu peut-être être un échec dans ton passé. Dieu est là. Et le Seigneur voudrait finalement t'aider à aller plus loin. Vous savez, parfois on peut avoir peur. On peut avoir peur du rejet de l'opposition. On n'aime pas l'opposition. On n'aime pas être rejeté. Il y a un homme qui, sur ce point, il en a vraiment, sincèrement, il en a dégusté. C'est l'apôtre Paul. Vous croyez? J'aimerais lire ce texte avec vous qui se trouve en Actes chapitre 18, les versets 6 à 8. Mais comme les Juifs s'opposaient à lui avec des blasphèmes, il secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur, dès maintenant j'irai vers les païens. » Il partit de là et sortit et se rendit dans la maison d'un homme craignant Dieu du nom de Titus Justus, maison qui était contiguë à la synagogue. Pourtant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent et furent baptisés. L'apôtre Paul, il y a un moment, il en a marre. Il dit, c'est bon, allez, stop. Mon peuple m'ont fatigué. Alors peut-être vous avez d'autres terminologies. Hein? C'est bon, il y en a marre. L'apôtre Paul dit maintenant, c'est simple, débrouillez-vous. J'ai secoué ma poussière, je n'ai pas de responsabilité. Vous savez, c'était des actes forts de faire ça. C'est comme en sortant de secouer la poussière de sous ses sandales. C'est des actes forts. Et à quelque part, l'apôtre Paul dit stop, stop. J'en peux plus, je suis fatigué, j'en ai marre. J'en ai marre, j'ai pris des coups, je me suis fait lapider, je me suis fait laisser pour mort. On m'a ramené dans la ville, j'ai dû m'échapper dans un panier en me descendant du mur. Il y en a marre. C'est pas à ça que j'ai été appelé. Chacun d'entre nous en rêve de servir le Seigneur et de vivre plein de miracles. Je me rappelle d'une scène que j'avais vue une fois dans une église. À chaque baptême, il y avait de grandes prophéties. Tu seras puissant pour ceci, tu seras puissant pour cela, tu verras des victoires, tu verras ceci, tu verras cela. Et l'un après l'autre, je me suis dit, il n'y en a pas un qui va prendre des coups là. Il n'y en a pas un. Alors que moi, la parole de Dieu, il vous m'est pardonné, mais je ne vois pas ça. Quand le Seigneur parle à Pierre, il ne lui dit pas, tu seras puissant, tu vas guérir par l'ombre, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Là où tu marcheras, les gens ils seront guéris. Non, non, non. Il dit, tu vas mourir pour moi. L'apôtre Paul, il ne lui fait pas une belle description en lui disant, écoute, voilà, je te débauche. De là où tu es, je vais t'offrir quelque chose de meilleur. Sincèrement, dans le monde, qui quitterait un boulot pour quelque chose de pire ? Mal payé ? Bien souvent, l'apôtre Paul dit, je n'ai pas mangé. J'étais dans la disette, j'étais dans le besoin. Quand il était au service du Sanhédrin, vous pensez qu'il manquait de quelque chose financièrement ? Non ? Et Moïse, quand il a quitté, il a choisi servir Dieu au lieu de servir Pharaon. Ce n'est pas le même salaire. Hein. Il n'y a pas autant de zéros. Avant, tu as tous les zéros après le 1. Maintenant, tu as plein de zéros et 1 à la fin. Mais c'est mieux avoir ça et avoir le Seigneur qu'avoir un 1 ou peu importe le numéro avant avec plein de zéros si la grâce et la bénédiction de Dieu n'est pas avec nous. N'est-ce pas ? Et alors, il est question finalement de répondre à l'apôtre Paul. Et je me disais, Seigneur, je peux comprendre que Paul, il en a marre et qu'à un moment, il se dit, ok, homme spirituel que je suis, je décide. Un peu plus loin, acte 18, versets 9 et 10, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas. Car moi, je suis avec toi, et personne ne te mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Paul était resté choqué, on peut le comprendre. Blessé, il avait certainement les cicatrices de cette lapidation et de tous les coups qu'il avait pris. Et sincèrement, combien de fois nous on a pu dire stop, j'en ai marre. J'en ai marre de prendre des coups, j'en ai marre de ceci, j'en ai marre de la lâcheté des uns, la lâcheté des autres. L'apôtre Paul aurait pu dire, mais c'est quoi ces frères ? Ils m'ont laissé lapider là et après ils sont venus juste me ramasser. Mais ils ne pouvaient pas faire plus. Et Dieu soit béni parce qu'ils ont eu le courage de le ramasser. Combien de fois il a fallu ramasser des frères et des sœurs, excusez-moi, à la petite cuillère. Et combien nous-mêmes nous avons été ramassés à la petite cuillère. Et cet amour, cette patience, cette capacité aussi de savoir poser ses mains sans ajouter de la souffrance, n'est-il pas une grâce de la part de Dieu ? Mais néanmoins, il y a des cicatrices et peut-être ce matin, il y en aurait qui pourraient dire, si vous saviez les cicatrices que j'ai, spirituelles, je me suis senti mal aimé, maltraité, rejeté, ceci, cela, il y en a marre. Je ne veux plus d'église, je ne veux plus de pasteur, je ne veux plus de frères et sœurs, je veux de Jésus. Mais si tu veux de Jésus, tu dois vouloir du reste. Il est indissociable parce qu'il est là. Amen. Et si je veux être là où le Seigneur est, je dois aussi accepter tout le reste qui, certes, est imparfait. Wow, imparfait. Tu as entendu le pasteur, il nous a dit qu'on est imparfait. Moi aussi, je suis imparfait comme ça. Il n'y a pas de problème. Il y a une chose qui dérange mon épouse. Je vous le dis, elle n'est pas là, elle ne peut pas le savoir. Si vous lui dites, je sais que c'est vous. Elle me dit un jour, le jour où on sera dans le ciel, finalement, on ne sera plus mariés. Ça me dérange. Et j'ai dit, oui, mais c'est la parole. Et en plus, c'est vrai qu'on pourrait se dire, mince, finalement, maintenant qu'il n'y a plus de défauts, qu'il est parfait, ben on est séparés. C'est pas juste. On a dû vivre ensemble quand on était imparfait. Maintenant qu'on est parfait, on est dans le ciel. À réfléchir. On travaille les uns au perfectionnement des autres. Amen. Mais là, dans ce texte, on voit qu'à un certain moment, Dieu lui dit, sois sans crainte. Mais parle et ne te tais pas. Ne te laisse pas prendre par la crainte, ne te laisse pas gagner par la défaite, ne te laisse pas gagner par les coups que tu as pris, par le rejet des uns et des autres. Parle. Parle. Je suis avec toi. Et ça, pour moi, c'est une assurance. Amen. C'est une grâce pour nous d'être, certes, à la présence du Seigneur. Et il dira, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, on a parlé de croire que Dieu est là par nos ressentis ou par notre foi. Notre foi. Et là encore, je me suis trouvé face à deux textes qui m'ont interpellé, dans lesquels un est presque en train de dire le contraire de l'autre. On y va ? Le premier. Psaume 139, versets 7 à 12. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est David qui dit ça, qui, à cause de sa culpabilité, voudrait fuir, voudrait se cacher. Mais il sait que Dieu est là. Vous l'avez déjà lu ce texte. Et après, il y a un autre homme qui, lui, finalement, il a le sentiment que Dieu, il n'arrive pas à le trouver. Et ce n'est pas un des moindres, c'est Job. On lit ce texte ensemble, Job chapitre 23, verset 3 à 10. Oh, si je savais où le trouver. Si je pouvais arriver jusqu'à sa résidence, j'exposerais devant lui mon droit. Je remplirai ma bouche d'arguments. Je connaîtrai les propos par lesquels il me répondrait. Je pourrai comprendre ce qu'il me dirait. Emploierait-il toute sa force à me faire un procès? Non, mais au moins il ferait attention à moi. Ce sera là un homme droit qui argumenterait avec lui et je serai pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. À l'Occident, je ne le remarque pas. Est-il occupé au Nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au Midi et je ne puis l'apercevoir? Il connaît pourtant la voie où je me tiens. Quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. Si le premier veut fuir, l'autre cherche Dieu. Alors peut-être que parfois, on voudrait pouvoir fuir parce qu'on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas en ordre. Et il y a des fois, je me suis rendu compte, il y en a, ils le disent ouvertement, je cherche et j'ai l'impression de ne pas réussir à entendre Dieu, je n'arrive pas à le trouver, je n'arrive pas à lui exprimer. C'est comme si finalement, il y a quelque chose qui est coupé. Et je voudrais vous dire que ça, souvent, c'est encore une fois l'effet de nos ressentis. Parce que si nous prenons la parole de Dieu par la foi, qu'est-ce qu'elle nous dit, sa parole? Non pas une fois, non pas deux fois, mais innombrables fois, je serai avec toi. Josué médite cette parole jour et nuit et je serai avec toi. Ne crains pas, prends courage, je serai avec toi comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Non? À qui encore Dieu a dit « Je suis avec toi, dites-moi, aidez-moi » Jérémie, qui encore? Gédéon, qui encore? Moïse, nous? Ah, faut pas s'oublier quand même, hein? Ah, quand même. Mais est-ce que nous avons cru à cette parole? Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as cru à cette parole? Et alors, sors de ce sentiment que tu parles à Dieu ou que tu voudrais parler avec Dieu et que Dieu ne t'écoute pas ou que Dieu n'est pas là. Parce qu'à quelque part, l'ennemi voudrait te convaincre de ça. Souvenez-vous qui a voulu susciter l'épreuve dans la vie de Job. Et qu'est-ce qu'il voulait prouver à Dieu, Job, le diable, sur Job? Ah, tu vois, tant qu'il va bien, tout va bien, c'est normal qu'il t'aime, mais enlève-lui la bénédiction et tu verras comment il va réagir. Enlève-lui ce sentiment où il est justifié, il est bien, parce qu'il t'appartient. Hein? Et vous croyez que ce que Job a pu vivre, nous, on ne serait pas touchés, même que Dieu nous garde de vivre ce que Job a vécu. Mais il y a des petites choses que Satan remet au goût du jour. Non? C'est, attends, je vais juste glisser un tout petit peu de doute. Un tout petit peu de doute. Et après, on verra. C'est comme une peau de banane. On va voir s'il va tenir debout ou s'il glisse. On va voir si finalement, parce que tu ne lui donnes pas ce qu'il veut quand il le veut, si finalement il reste attaché à toi. Et là, parfois, on pourrait se faire gagner par le doute que Dieu soit là. Mais Dieu est... On va y arriver. Dieu, il est là parce que c'est sa parole qui me le dit. Et lui-même, il me l'a promis. Mon frère, ma sœur, les deux, finalement, ils vont se baser sur leurs sentiments. Là, il voudrait fuir et il sait qu'il ne peut pas fuir. L'autre, il voudrait le trouver et il se dit, je ne le trouve pas. Qui a raison? Qui a tort? Quelle est la bonne réaction? Croyons et confessons que Dieu est là, non pas par nos ressentis, mais par notre foi. Croyons que quand nous disons que le Seigneur est là, il est au présent, au milieu de nous, et que le Seigneur passe dans les rangs. Et si je venais dans la présence du Seigneur avec cette conviction, je suis sûr que le Seigneur ne me renverrait pas chez moi sans avoir reçu ce que j'attendais de lui. Parce que pas seulement il est là, il est fidèle, il est bon, il est juste, il est merveilleux. Il est tout-puissant, il est glorieux. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Et vous savez, nos cultes, ils seraient bien différents. On ne serait pas là en train de s'attendre l'un l'autre. Attends, je vais voir si l'autre, il va prier. Je vais prier parce que je vais mettre le mot un peu... Non, non. On serait tous en train d'élever nos voix et de louer. Vous pensez qu'en ciel, on va s'attendre les uns les autres pour prier? Bon, aïe, moi, je ne vous attends pas. Mais non. Et ici-bas, mais je vais m'exercer à ça, non? Parce que je considère que je suis là devant la présence du Seigneur et je ne veux pas en perdre une miette. Il est là. Jérémie 23, verset 24 dira, « Quelqu'un se cachera-t-il dans un lieu caché sans que je le voie ? Oracle de l'Éternel. Est-ce que je ne remplis pas, moi, les cieux et la terre ? Oracle de l'Éternel. » Dieu et partout. J'aimerais terminer. Ésaïe 41, versets 10 à 13. Ce matin, un encouragement pour chacun de nous. Mon frère, ma sœur, si tu es venu avec crainte ce matin, je voudrais te dire, abandonne ta crainte. Ce n'est pas la crainte qui doit nous conduire à Dieu. Quand je parle de crainte, de peur. La sainte crainte, oui. Mais la peur, non. On ne vient pas à Dieu parce qu'on a peur. Vous savez, j'ai entendu parfois des parents dire aux enfants, t'as fait ça, oh, Dieu n'est pas content, il va te punir. Quelle belle image qu'on donne de Dieu aux enfants. Après, il dit, viens à l'église, tu parles. Vas-y toi si tu veux. Et il voit Dieu comme un père fouetteur, non? Si tu as quelque chose à dire à ton fils, dis-lui directement, prends tes responsabilités, arrête de mettre Dieu dans l'histoire. parce que la parole de Dieu me dit ceci. Sois sans crainte, car... Ah non, 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 vous allez me le dire comme il faut, ça. Sois sans crainte, car... Amen. N'ouvre pas de yeux inquiets, car... Alléluia. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Voici qu'ils seront couverts de honte et de confusion. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui saisit ta main, qui te dit, sois sans crainte, je viens à ton secours. Alors, voulez-vous prendre cette parole par la foi ou par les ressentis? Parce que si vous voulez le ressentir plus fort, je peux vous le crier à l'oreille. Mais je ne suis pas sûr que ça passera. Parce que parfois, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Ce texte, vous l'avez déjà lu. Oui ? Combien de fois ? Et alors, ne laissons pas la crainte nous gagner, ne laissons pas le doute nous gagner, ne laissons pas notre passé nous gagner, ne laissons pas nos échecs nous gagner, ne laissons pas nos sentiments de rejet nous gagner. Mais soyons gagnés par le Seigneur. Soyons gagnés par la foi. Je disais ce matin au temps de partage à la prière, il y a ce moment où les disciples disaient à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Et la réponse qu'on pourrait finalement s'attendre derrière cette parole, c'est oui, allez, je vais vous l'augmenter. 30%, 40%, 50%, une double portion, Seigneur, 100%, avec ou sans crème. Hein ? Mais Jésus, ce n'est pas ce qu'il leur dit. Il dit, si vous aviez de la foi, vous ordonnerez à ce sycomore ou à cette montagne à se jeter à la mer et il vous obéirait, il le ferait. Jésus, finalement, il leur dit, je ne vais pas vous augmenter la foi, c'est exercer votre foi, elle va grandir. Est-ce que tu crois que Jésus est là? Alors vis comme sachant que Jésus est à tes côtés. Ce n'est plus la même chose. J'avais un enfant qui était arrivé à l'église à Besançon, un petit gamin qui avait un caractère assez particulier. La première fois, la maman, elle est venue me voir, elle était confuse, elle me dit, pasteur, vous savez, il est terrible, il hurle, il crie, il fait... J'ai dit, vous inquiétez pas, sœur, le Seigneur va s'en occuper. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va se régler le problème. Et le gamin, les premières fois, il hurlait, personne ne pouvait le toucher que la maman. Et alors un jour, il commence à crier, il commence à faire son cinéma. Je me lève, je vais le prendre, je le soulève. Je lui dis, tu veux un bonbon? La manière douce, la douceur. Oui. J'ai dit, ben alors tu arrêtes et à la fin, je te le donne. Terminé. La maman, elle me regarde, dit, personne n'a jamais pu le toucher. Moi, j'ai pu. Et donc, on a établi un contact. Et quelques semaines plus tard, sa tante, à la sortie de l'église, il l'embête. Et moi, j'étais à l'entrée de l'église pour saluer les uns les autres. Et je le vois arriver vers moi, il me prend par la main, il tire la veste. Il dit, pasteur, elle m'embête. Et je me suis dit, Seigneur, on est parfois comme cet enfant qui, pour des raisons étranges, peut avoir un comportement, mais toi, tu sais, avec ta douceur, nous gagner. Alors, vous n'attendez pas le bonbon du ciel. Hein. Mais Dieu sait ce qu'il doit nous donner pour gagner notre cœur, sa douceur, son amour, sa patience, sa bonté. Et finalement, on apprend à se réfugier au Seigneur. Alors, peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin de trouver refuge en Dieu. Peut-être quelqu'un a besoin juste de dire, Seigneur, j'abandonne mes peurs. Seigneur, j'abandonne mes échecs du passé à tes pieds. Arrêtez de regarder à la croix. Comme si encore vous aviez besoin que le Seigneur vous pardonne pour vos échecs du passé. Regardez au ciel, où finalement vous êtes assis avec lui et vous êtes victorieux. Amen. On ferme nos yeux. Seigneur, nous te bénissons encore pour ta parole ce matin qui nous amène, Seigneur, non pas à agir par nos ressentis et à nous laisser conduire par nos ressentis, mais par la foi. Seigneur, cette foi qui se veut, Seigneur, vivante, active, cette foi qui se veut suivie d'actes, Seigneur, sans laquelle serait que du vent. Seigneur, nous croyons dans ta parole qui nous dit, qui nous affirme que tu es là avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et si tu nous envoies, Seigneur, prêcher ta parole dans le monde entier, c'est que tu seras à nos côtés où que nous soyons, Seigneur, et à chaque fois tu agiras puissamment. Tu nous encourages, Seigneur, à ne pas avoir peur de ce que nous allons à dire, Seigneur, car le Saint-Esprit lui-même nous enseignera. Seigneur, merci parce que tu nous libères de nos défauts du passé, tu nous libères, Seigneur, de nos entraves, tu nous libères de nos craintes, Seigneur. Encore ce matin, je voudrais te prier, Seigneur, sois là pour libérer les cœurs. Le cœur de ceux qui pensent qu'ils ne sont pas autant aimés que les autres. Le cœur de ceux qui se sentent encore impurs, injustes pour s'approcher de toi, Seigneur. Seigneur, nous croyons que Jésus est mort pour chacun de nous de la même manière. Et son pardon est unique, total et complet pour tous ceux et celles qui se confient vraiment en lui. Seigneur, encore ce matin, que tu puisses, Seigneur, permettre que les oreilles de la foi s'ouvrent. Que ceux qui pensent que tu n'es pas là pour eux, Seigneur, puissent entendre ta voix. Seigneur, que ceux qui te fuient parce qu'ils savent ce que tu attends d'eux, Seigneur, puissent arrêter de fuir. Seigneur voudrait dire à quelqu'un ce matin, quand est-ce que tu vas t'arrêter de fuir? Tu sais ce que j'ai posé sur ta vie et tu fuis. Tu le refuses parce que tu as peur, parce que tu regardes en arrière au lieu de regarder en avant. Mon frère, je voudrais te dire que le Seigneur va te parler d'une manière qui sera sans équivoque. Sois pas dans la crainte, mais réjouis-toi, parce qu'il fait preuve envers toi de patience. Par contre, ne fais pas l'erreur de fuir. C'est le temps pour toi de te rendre et d'accepter de le servir. Seigneur, merci encore pour ce culte. Merci pour ta présence, Seigneur, qui est toujours là. Merci encore d'être celui qui nous accompagne dans tous les moments de notre journée, Père, de notre vie. À toi, honneur et gloire. Amen.